Ah, des fermes ?
Bah, des arbres ?
Des fermes ?
Et des arbres ?
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Et bonjour et bienvenue sur notre nouvelle émission des fermes et des arbres pour cette nouvelle année. On reprend avec une nouvelle personne qui remplace François et c'est Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour Nathalie.
Donc aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine du handicap sur Radio Bartas. Et donc toute la semaine, on vous parle du handicap sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, pour cette émission des fermes et des arbres, on va donc parler de médiation animale avec Rachel et d'accessibilité des sentiers forestiers aux personnes en situation de handicap. Je te laisse la main, Rachel.
Merci, Nathalie. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Catherine Dubois, qui est cofondatrice et intervenante pour l'association Les Ateliers de Cadichon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, merci d'être venue. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de l'association et de votre parcours ?
Du parcours de l'association ?
Exactement.
D'accord. L'association, elle est encore toute jeune. Elle a été créée au début de l'année 2018. Donc, c'est une toute jeune association. Et nous sommes encore un petit groupe de bénévoles actifs dans l'association. En tout cas, nous sommes deux à l'avoir cofondée. Voilà. Et j'assure, en effet, les activités principales de l'association pour le moment, en tant qu'intervenante en médiation par l'animal ou médiation animale.
D'accord. Donc les ateliers de Cadichon, est-ce qu'il y a un lien avec l'âne ?
Oui, il y a un lien avec... avec l'âne, avec les ânes, même si, comme on va le voir, bon, ce ne sont pas les seuls animaux avec lesquels nous proposons de travailler, mais ce sont clairement des animaux avec lesquels on peut faire un très chouette travail en médiation.
Donc, est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est donc la médiation animale ?
Voilà. Donc, la médiation animale ou la médiation par l'animal, les deux se disent. Peut-être que la médiation par l'animal, d'ailleurs, c'est un petit peu plus... ça parle davantage. C'est une approche qui est soit thérapeutique, à proprement parler, et donc ça va s'adapter au public dont il va être question plus majoritairement aujourd'hui, mais c'est aussi une approche à visée sociale ou éducative, d'éveil, auprès de, évidemment, de publics différents. Et cette approche donc thérapeutique, éducative ou sociale, elle utilise la relation entre l'homme et l'animal, donc le bénéficiaire et l'animal, pour aider ce bénéficiaire, cette personne, soit à apaiser ses tourments, à surmonter ses handicaps, à tolérer ses souffrances, voilà. Donc c'est vraiment cette relation qui s'établit entre le bénéficiaire et l'animal qui va permettre aux bénéficiaires d'atteindre un mieux-être dont on parlera un petit peu plus longuement, j'imagine. Voilà.
D'accord. Donc vous êtes deux intervenantes, c'est ça, dans l'association pour l'instant ?
Pour l'instant, je suis la seule intervenante en médiation par l'animal, mais j'interviens régulièrement avec l'autre cofondatrice de l'association, qui vient en appui à l'occasion des séances.
D'accord. Et donc, quels sont vos petits partenaires du monde animal qui vous accompagnent ?
Alors, j'ai opté pour certaines espèces animales, sachant que ce ne sont pas les seules avec lesquelles on peut travailler. En fait, on peut travailler avec de très nombreux animaux domestiques. Ça dépend déjà, bien entendu, du fait que l'intervenant en médiation animale doit se sentir bien avec les espèces animales en question. Alors, moi, j'interviens avec des lapins et des cochons d'Inde, des chiens, une chienne en particulier, et des ânes. Voilà. Mais la médiation par l'animal, eh bien, ça peut se pratiquer avec d'autres animaux. Et notamment par exemple avec des poules, ça peut paraître surprenant, mais certaines races de poules sont particulièrement adaptées, et les personnes qui se sentent à l'aise avec les poules peuvent, et je l'ai vu pratiquer, travailler avec des poules. Les oiseaux, de manière générale, peuvent intervenir. Il se trouve qu'à titre personnel, je ne suis pas très à l'aise avec les volatiles, on va dire, donc je ne travaille pas avec. Et puis bien sûr, les chevaux. Là, on connaît le fait que d'équité thérapie, on reviendra sur thérapie ou pas thérapie, mais bon, voilà, on connaît aussi le fait que le cheval est un animal important qui peut apporter beaucoup à une personne en souffrance.
D'accord.
Et puis il y a des rats aussi, voilà, il y a plein, voilà. Les gens qui aiment les rats sont des animaux, par exemple, avec lesquels on peut faire un super travail aussi. Il faut être à l'aise.
D'accord. Et j'imagine que c'est aussi une pratique qui évolue dans le temps, donc peut-être que l'utilisation de certains animaux va évoluer aussi, qu'on va trouver aussi d'autres...
Clairement, on reste de toute façon dans des animaux domestiques. On ne part pas sur le champ des animaux sauvages.
Parce que comme le loup, par exemple.
Voilà, il ne s'agit pas de ça, puisque en fait, la médiation par l'animal, elle se pratique avec... Bon, l'intervenant pratique la médiation par l'animal avec des animaux qu'il a chez lui, des animaux qu'il a sélectionnés, des animaux qu'il éduque, donc des animaux qu'il a le droit d'avoir chez lui, et ça n'est pas le cas de la faune sauvage aux dernières nouvelles.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que vous travaillez avec des institutions à Florac ou dans les alentours de Florac pour l'instant ?
Oui, voilà. Alors, disons que cette médiation animale, si vous le permettez, on passe par à qui elle s'adresse. En priorité à un certain nombre de cibles qu'on peut qualifier de personnes fragiles. Parmi ces personnes fragiles, il y a des personnes en effet en situation de handicap moteur ou mental, mais il y a aussi plus largement les personnes âgées, les personnes atteintes de démence de type maladie d'Alzheimer. Ça peut être aussi les personnes, notamment les adolescents, les enfants qui sont en rupture familiale ou qui ont des troubles de l'apprentissage importants, des troubles du comportement. Donc il y a un panel large de personnes qui peuvent bénéficier de médiation animale. Autrement dit, ça peut en effet se pratiquer, et en l'occurrence, c'est le cas pour moi actuellement, avec un enfant en face à face, voilà, par exemple, donc avec un particulier. Ou bien, en effet, on peut travailler et l'exercer dans des établissements de type EHPAD, de type maison d'accueil spécialisée. Et c'est le cas, par exemple, ici à Florac, avec la Masse Les Bancelles, auprès de qui j'ai pu intervenir. Et prochainement avec également le... Enfin, là, c'est à nouveau plus des personnes en situation de handicap, avec les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer de l'hôpital local de Florac, par exemple. Voilà.
D'accord. Et est-ce que parfois, il y a un retour du personnel soignant, du personnel des établissements où vous intervenez sur le après ?
Oui, oui. Alors déjà, nous, en tant qu'intervenants en médiation par l'animal, on sent évidemment qu'il se passe des choses pendant la séance. Il se passe des choses parce que, bien évidemment, ces séances, elles ont des objectifs. Les objectifs ne vont pas être les mêmes avec un public handicapé moteur et avec un public, par exemple, de personnes qui souffrent de démence. C'est tout l'intérêt de cette médiation, c'est qu'en fait, elle s'adapte aux objectifs. Enfin, elle a des objectifs qui s'adaptent à la problématique du public. Donc, si on a affaire, par exemple, à des personnes qui ont des problèmes moteurs, on va pouvoir avoir pour objectif la stimulation de tout ce qui est moteur, puisque l'animal, dans la médiation par l'animal, l'animal agit vraiment comme un stimulus. Donc un stimulus sur les plans moteur, affectif, émotionnel, sensoriel, psychique. Voilà, en fait, c'est ça la médiation par l'animal, c'est que par le truchement de l'animal, la personne va parvenir à surmonter des handicaps ou à réaliser des choses qu'elle n'a pas l'envie, pas la force de faire lorsqu'il n'y a pas la présence de l'animal et lorsqu'il n'y a pas ce stimulus. Autrement dit, il y a des personnes qui, en effet, se mettent à communiquer pendant une séance et la personne qui les encadre et qui est présente, ça m'est arrivé, me dit « mais cette personne-là, je travaille dans cette structure depuis 6 mois, je la vois tous les jours, ce monsieur-là, c'est la première fois que j'entends sa voix ». Voilà. Donc la personne qui est au contact de l'animal se remémore des choses. Ça va quand vous avez un petit lapin sur la table. Alors évidemment, ça remémore plus des lapins qui peut-être n'ont pas servi à la médiation par l'animal.
Un petit civet.
Voilà. Mais nous sommes en zone rurale et donc les lapins, ça évoque des souvenirs. Évidemment, les chiens, les ânes, ça évoque des souvenirs aussi. Voilà, donc il se passe des choses pendant les séances. Des gens retrouvent l'envie de parler. Des gens qui ne se parlent pas entre elles, des bénéficiaires qui ne se parlent pas entre eux, communiquent entre eux au sujet de l'animal qui est devant eux. L'animal est un prétexte, bien souvent, dans la médiation par l'animal. Et en effet, on a des objectifs et parmi ces objectifs, il y a l'envie de communiquer. Voilà. Plus globalement, le grand objectif pour les personnes fragiles en matière, enfin les grands objectifs de la médiation par l'animal et qu'on atteint la plupart du temps, c'est vraiment l'apaisement, le bien-être. C'est avant tout un moment de plaisir pour la personne qui est en souffrance psychique ou physique. Le contact avec l'animal, c'est avant tout un moment d'apaisement, un moment de bien-être. Les personnes qui sont très agitées, s'apaisent. Voilà, donc ça, les personnes qui ont du mal, qui ont les membres douloureux, etc., on leur fait caresser le pelage de l'animal. Et là, les membres, les articulations, les muscles, tout se détendent. Voilà, c'est ce réconfort, ce bien-être qu'on vise déjà à la base. Et puis aussi, beaucoup, le fait de retrouver de l'estime de soi. Puisqu'en fait, le peu qu'on va demander à ces personnes-là en matière de responsabilité, être responsable de brosser le petit cochon d'Inde aujourd'hui, être responsable du fait de faire 3 pas en laisse avec le chien, etc. Voilà. Ce sont des choses qui font énormément de bien en matière d'estime de soi à des personnes qui se sentent complètement inutiles. Voilà, donc ça c'est aussi un objectif très important. Également, tout ce qui est, rupture de l'isolement, c'est très important parce que les personnes, comme je disais, qui ne communiquent pas, qui ne se regardent pas, qui sont toujours dans leur chambre, qui ne veulent jamais participer à aucune animation, ce qui a pu m'être dit par des éducateurs, tout d'un coup, ce sont des personnes qui sortent de leur isolement. Et ça, c'est très important pour globalement leur bien-être plus général dans la structure, si on se trouve dans une structure.
Merci pour toutes ces informations. Moi, ça me fait penser aussi au fait qu'on met de plus en plus de petits animaux en classe aussi, en fait, avec les enfants en classe maternelle, primaire. Et donc, en fait, les animaux ont également le même objectif de là, ce que vous avez raconté.
Oui.
La dernière fois, j'étais dans une école où il y a un petit lapin et donc les enfants s'occupent du petit lapin. Et c'est des enfants qui ont 7-8 ans, mais ils se sentent investis d'une tâche très sérieuse, qui est de s'occuper de quelqu'un qui est plus petit qu'eux.
Tout à fait. Alors, on intervient également dans les écoles et dans les crèches,
ouais.
Avec les tout-petits.
D'accord.
Et ça, c'est encore une autre aventure, mais on est dans la stimulation de l'éveil de l'enfant. de l'éveil à l'autre, de l'éveil au vivant, avec les tout-petits. Et puis, on apprend le respect de l'autre, parce que respecter un animal, ou respecter le petit camarade, parce qu'on ne peut pas être à 20 sur un même petit animal, donc c'est chacun son tour, c'est aujourd'hui c'est toi, la semaine prochaine ça sera lui. Voilà, ce sont des règles de la vie qu'on apprend aux tout-petits par le biais de sa relation avec l'animal.
Merci beaucoup Catherine Dubois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les contacts de l'association Les Ateliers de Cadichon pour les personnes qui seraient intéressées ?
Oui, alors nous sommes basés à Florac et voilà, on peut se déplacer aux alentours de Florac, c'est vraiment à voir au cas par cas. Donc le numéro de téléphone de l'association, c'est le 06 87 86 85 84 et notre adresse mail pour nous envoyer donc un petit message, c'est les ateliers de Cadichon, tout attaché, tout en minuscule. Donc Cadichon, c'est un âne de l'univers de la comtesse de Ségur, certains l'auront
noté.
Voilà, donc les ateliers de Cadichon @gmail.com.
Et donc, que ce soit des EHPAD, des maisons d'accueil spécialisées ou des écoles, ces établissements, voilà, des crèches, peuvent vous contacter
Ou des parents un peu désarçonnés. D'accord. Par des problématiques d'apprentissage, de comportement de leur enfant. Voilà.
D'accord. Et ben, merci beaucoup
merci à vous de
d'être
m'avoir
venue
invité.
Ici. Et une petite pause musicale avec Roméo Elvis et Angèle. Merci.
Merci.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
qu'après avoir parlé des ateliers de Catichon en présence de Catherine Dubois, nous passons à un sujet un peu plus vert.
Oui, nous allons parler de l'accessibilité des sentiers forestiers aux personnes en situation de handicap. Pour préparer cette émission, j'ai fouillé un petit peu sur Internet, comme on fait habituellement, et donc j'ai pu voir le cahier d'Athènes. C'est une association qui aujourd'hui, c'est l'Agence en fait, française pour la biodiversité, qui a fait un guide pour l'accessibilité dans les espaces naturels. Et il est rappelé dans ce guide que la loi numéro, alors je vais vous le dire, hein, numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pose le principe de l'égalité entre toutes les personnes et notamment de l'accès aux vacances et pratiques de loisirs. Et donc l'accès aux milieux naturels, dont la forêt. Après, quand on parle d'accessibilité, il faut le voir pour toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit moteur, visuel, mental ou auditif. Mais ça servira aussi pour les personnes vieillissantes et pour les enfants, par exemple. Donc finalement, le but de tout ça, c'est l'accessibilité pour tous aux espaces naturels. Et bon, l'Athènes rappelle qu'évidemment, les espaces naturels, c'est pas comme les bâtiments publics. Hein. Certains endroits, de toute façon, ne sont pas accessibles parce que ça reste un milieu naturel, donc non construit. Mais par contre, il est quand même intéressant d'aménager certains lieux dans le respect de l'environnement pour que ces milieux puissent être visités par tous, parce que c'est quelque chose d'important de pouvoir aller en nature, quelle que soit notre condition. Et l'Athènes indique également que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'accessibilité ne nécessite pas forcément des travaux onéreux, mais certains aménagements simples peuvent être mis en place. On peut travailler sur l'accessibilité à travers le matériel adapté, comme par exemple pour les personnes à mobilité réduite, faire des jouellettes, là, du matériel adapté, comme on a pu voir pour la caravane des 140 ans pour le chemin de Stevenson à Florac. Voilà. Et donc ils indiquent plusieurs exemples de ce qui peut se faire en matière de tourisme et de handicap. Donc des sentiers piétonnés par exemple avec un platelage bois pour rendre accessibles des zones forestières ou des zones humides. La mise en place d'un audio guide, des parcours en relief sur le sol pour avoir un espèce de fil d'Ariane là, sur le sol. Des fauteuils tout terrain, etc. Et moi je voulais vous parler, donc, suite à cette petite introduction, de deux exemples sur le territoire en lien avec la forêt. Un projet qui est déjà en service, hein, qui est prêt, puis un projet qui est en projet, je ne sais pas si ça peut se dire, enfin en tout cas c'est un projet en projet. Donc un exemple aujourd'hui en service, c'est le gîte d'Air de Côte au Parc National des Cévennes. Du Parc National des Cévennes, pardon. C'est une ancienne maison forestière, donc une maison des agents de l'ONF, qui est transformée en gîte, accessible aux personnes à mobilité réduite et labellisée tourisme et handicap. Et au départ, le Parc National des Cévennes avait pensé créer un parcours accessible sur plusieurs points, mais c'était un peu compliqué à mettre en œuvre, alors, parce que plusieurs questions se posent pour faire un vrai parcours accessible sur une longueur importante dans un lieu un peu... comme ici, où il y a souvent beaucoup de pentes. Parce que dans un parcours accessible, il faut des faibles pentes, il faut des zones de demi-tour, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles au fur et à mesure. Donc par exemple, en forêt, il y a des arbres qui peuvent tomber, il y a des feuilles mortes qui peuvent arriver. Donc il faut quand même que l'entretien se fasse et que l'accessibilité aussi se fasse dès le départ. Par exemple, que le parcours se fasse au niveau du parking dès le départ. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que c'est pas forcément très facile de trouver des lieux où tout ça se mette, où tout est lié. Donc dans nos montagnes, ça peut avoir parfois un coût un peu plus important. Donc au niveau du gîte, pour le Parc National des Cévennes, ils ont commencé par créer un dispositif statique. Ils ont créé un belvédère qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et qui a du matériel adapté pour lire le paysage. Ils ont fait une maquette en relief et un cône d'écoute. Le but était d'avoir une approche un peu sensorielle du paysage. Et l'intérêt de ce belvédère, c'est qu'il est à proximité du gîte qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et donc le couple qui le gère peut donc aller facilement sur place pour son entretien. Voilà, donc comme on parlait tout à l'heure pour les parcours. Et le gîte dispose également d'une jouellette qui peut être prêtée. Donc ça, c'était le projet qui est en service à Air de Côte. Et je voulais vous prendre un autre exemple qui est en projet sur les Goales. Donc l'Égual, aujourd'hui, il y a une démarche qui s'appelle Égual Forêt d'Exception, qui est une démarche initiée par l'Office national des forêts et qui vise notamment à mieux accueillir le public sur cette forêt, sur ce massif de l'Égual. L'Égual est un massif très forestier. Il est pourvu aujourd'hui d'une offre touristique importante. Et il y a de nombreux sentiers de randonnée, comme vous savez. Mais il n'y a pas en fait de sentiers dits accessibles pour tous. Et donc l'ONF, l'Office national des forêts, a commandé une étude pour travailler sur l'accessibilité sur ce massif. Et six sites ont été étudiés. Il y en a un, celui de Puéchagu, qui est dans le Gard, qui est un site forestier avec pas mal de potentiel parce qu'il y a, un arboretum qui a été aménagé à l'époque. Et donc sur ce site, ils vont essayer de faire un sentier accessible pour tous. Il y a un premier projet qui a été présenté et il doit être réadapté en fonction des demandes des futurs usagers. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il est très important dans ce genre de projet de travailler avec les associations qui représentent les usagers, les futurs usagers, parce que c'est comme ça qu'on sait si notre projet est viable ou pas. Et voilà, donc il y a une recherche de financement en cours pour ce sentier. Donc voilà, c'est pour ces deux projets. Et aujourd'hui, on peut parler sur l'accessibilité aux massifs forestiers ou aux espaces naturels. Plusieurs pistes de travail peuvent être évoquées. Aujourd'hui, il y a l'accessibilité en statique, donc par exemple les expositions, les belvédères, les accueils touristiques dans les bâtiments. Les lieux de visite, ça commence à être à peu près bon sur le territoire. Mais on a une marge de progression à voir sur les parcours un peu plus longs. Des sentiers un peu plus longs. Donc il faut travailler un peu sur tous les points pour que ce soit égal pour tous, c'est-à-dire faire des aménagements de sentiers, faire de l'adaptation de matériel, adapter les bâtiments d'accueil au public, etc. Et il y a également de nouvelles technologies. Les applications numériques pourront peut-être nous aider. Et on l'a vu avec l'association du Stevenson qui a fait une démonstration d'une application numérique gratuite pour smartphone et destiné aux malvoyants. Ça a été fait lors d'une manifestation à Florac en septembre. Et donc c'était une application qui a été mise au point par un universitaire qui permet aux déficients visuels donc de marcher en autonomie. Donc voilà, donc tous ces projets permettent une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les milieux naturels et en forêt. Donc je trouvais intéressant de vous
Très
en faire part aujourd'hui. Voilà, et ben, c'est la fin de notre nouvelle émission Défermer des arbres. Merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir.
C'était Défermer des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.